Barbey d'Aurevilly, du dandysme et de Georges Brummel. Chapitre 1. Les sentiments ont leur destinée. Il en est contre lequel tout le monde est impitoyable. C'est la vanité. Les moralistes l'ont décrié dans leurs livres, même ceux qui ont le mieux montré quelle large place elle a dans nos âmes. Les gens du monde, qui sont aussi des moralistes à leur façon, puisque 20 fois par jour ils ont à juger la vie, ont répété la sentence portée par les livres contre ce sentiment, à les entendre le dernier de tous. On peut opprimer les choses comme les hommes. Cela est-il vrai que la vanité soit le dernier sentiment dans la hiérarchie des sentiments de notre âme? Et si elle est le dernier? Si elle est à sa place, pourquoi la mépriser? Mais est-elle même le dernier? Ce qui fait la valeur des sentiments, c'est leur importance sociale. Quoi donc, dans l'ordre des sentiments, peut être d'une utilité plus grande pour la société que cette recherche inquiète de l'approbation des autres, que cette inextinguible soif des applaudissements de la galerie? Qui, dans les grandes choses, s'appelle amour de la gloire et dans les petites, vanité. Est-ce l'amour, l'amitié, l'orgueil? L'amour dans ses 1000 nuances et ses nombreux dérivés, l'amitié et l'orgueil même, partent d'une préférence pour une autre ou plusieurs autres, ou soi, et cette préférence est exclusive. La vanité, elle, tient compte de tout. Si elle préfère parfois de certaines approbations, c'est son caractère et son honneur de souffrir quand une seule lui est refusée. Elle ne dort plus sur cette rose repliée. L'amour dit à l'être « Tu es mon univers ». L'amitié « Tu me suffis ». Et bien souvent « Tu me consoles ». Quant à l'orgueil, il est silencieux. Un homme d'un esprit éclatant disait « C'est un roi solitaire, oisif et aveugle. Son diadème est sur ses yeux. » La vanité a un univers moins étroit que celui de l'amour. Ce qui suffit à l'amitié n'est pas assez pour elle. C'est une reine aussi, comme l'orgueil est roi. Mais elle est entourée, occupée, clairvoyante. Et son diadème est placé là où il embellit davantage. Il fallait bien dire cela avant de parler du dandysme, fruit de cette vanité qu'on a trop flétrie, et du grand vaniteux Georges Brummel. Chapitre 2. Quand la vanité est satisfaite et qu'elle le montre, elle devient de la fatuité. C'est le nom assez impertinent que les hypocrites de modestie, c'est-à-dire tout le monde, ont inventé par peur des sentiments vrais. Ainsi, ce serait une erreur que de croire, comme on le croit peut-être, que la fatuité est exclusivement de la vanité montrée dans nos relations avec les femmes. Non, il y a des fats de tout genre. Il y en a de naissance, d'ambition, de fortune, de science. Tu fier en est un, tu recarrais un autre. Mais comme les femmes occupent beaucoup en France, on a surtout donné le nom de fatuité à la vanité de ceux qui leur plaisent et qui se croient irrésistibles. Seulement, cette fatuité, commune à tous les peuples chez qui la femme est quelque chose, n'est point cette autre espèce qui, sous le nom de dandysme, cherche depuis quelque temps à s'acclimater à Paris. L'une est la forme de la vanité humaine, universelle. L'autre, d'une vanité particulière et très particulière, de la vanité anglaise. Comme tout ce qui est universel, humain, a son nom dans la langue de Voltaire, ce qui ne l'est pas, on est obligé de l'y mettre. Et voilà pourquoi le mot dandysme n'est pas français. il restera étranger comme la chose qu'il exprime. Nous avons beau réfléchir toutes les couleurs, le caméléon ne peut réfléchir le blanc. Et le blanc, pour les peuples, c'est la force même de leur originalité. Nous posséderions plus grand encore le pouvoir d'assimilation qui nous distingue, que ce don de Dieu ne maîtriserait pas cet autre don, cette autre puissance, le pouvoir d'être soi, qui constitue la personne même, l'essence d'un peuple. Eh bien, c'est la force de l'originalité anglaise, s'imprimant sur la vanité humaine. Cette vanité ancrée jusqu'au cœur des marmitons, et contre laquelle le mépris de Pascal n'était qu'une aveugle insolence qui produit ce qu'on appelle le dandysme. Nul moyen de partager cela avec l'Angleterre. C'est profond comme son génie même. Saint-Géry n'est pas ressemblance. On peut prendre un air ou une pose, comme on vole la forme d'un frac. Mais la comédie est fatigante. Mais un masque est cruel, effroyable à porter, même pour les gens à caractère, qui seraient les fiesques du dandysme, s'il le fallait, à plus forte raison pour nos aimables jeunes gens. L'ennui qu'ils respirent et inspirent ne leur donne qu'un faux reflet du dandysme. Qu'ils prennent l'air dégoûté, s'ils veulent, et se gantent de blanc jusqu'au coude, le pays de Richelieu ne produira pas de Brummels. Chapitre 3. Ces deux fêtes célèbres peuvent se ressembler par la vanité humaine universelle, mais ils diffèrent de toute la physiologie d'une race, de tout le génie d'une société. L'un appartenait à cette race nervo-sanguine de France, qui va jusqu'aux dernières limites dans la foudre de ses élans. L'autre descendait de ces hommes du Nord, lymphatiques et pâles, froids comme la mer dont ils sont les fils, mais irascibles comme elle, et qui aiment à réchauffer leur sang glacé avec la flamme des alcools. High spirits. Quoique de tempérament opposé, ils avaient tous les deux une grande force de vanité, et naturellement, ils la prirent pour le mobile de leurs actions. Sur ce point, ils bravent également le reproche des moralistes, qui condamnent la vanité au lieu de la classer, de l'absoudre. A-t-on lieu de s'en étonner quand on pense au sentiment dont il est question, écrasé depuis 1800 ans sous l'idée chrétienne du mépris du monde qui règne encore dans les esprits les moins chrétiens. Et d'ailleurs, les gens d'esprit ne gardent-ils presque pas tous dans la pensée quelques préjugés au pied duquel ils font pénitence de l'esprit qu'ils ont? C'est ce qui explique le mal que les hommes qui se croient sérieux parce qu'ils ne savent pas sourire, ne manqueront point de dire de Brummels. C'est ce qui explique, plus encore que l'esprit de parti, les cruautés de Champfort contre Richelieu. Il l'a attaqué avec son esprit incisif, brillant et venimeux, comme on perce avec un stylet le cristal empoisonné. En cela, Champfort, tout athée qu'il fût, a porté le joug de l'idée chrétienne, et, vaniteux lui-même, il n'a pas su pardonner, au sentiment dont il souffrait, de donner du bonheur aux autres. Car Richelieu, comme Brummels, plus même que Brummels, eut tous les genres de gloire et de plaisir que l'opinion peut créer. Tous les deux, en obéissant aux instincts de leur vanité, apprenons à dire ce mot sans horreur, comme on obéit aux instincts de son ambition, de son amour, etc., ils réussirent. Mais l'analogie s'arrête là. Ce n'était pas assez que de différer par le tempérament. La société dont ils dépendent apparaît en eux et de nouveau les fait contraster. Pour Richelieu, cette société avait brisé tous ses freins dans sa soif implacable d'amusement. Pour Brummels, elle mâchait les siens avec ennui. Pour le premier, elle était dissolue. Pour le second, hypocrite. C'est dans cette double disposition que se trouve surtout la différence qu'il y a entre la fatuité de Richelieu et le dandysme de Brummel. Chapitre 4. En effet, il ne fut qu'un dandy. Avant d'être le genre de fat que son nom représente, Richelieu, lui, était un grand seigneur dans une aristocratie expirante. Il était général dans un pays militaire. Il était beau à une époque où les sens révoltés partageaient fièrement l'empire avec la pensée et où les mœurs du temps ne défendaient pas ce qui plaisait. En dehors de ce que fut Richelieu, on peut concevoir Richelieu encore. Il avait pour lui toutes les forces de la vie. Mais ôtez le dandy, que reste-t-il de Brummel? Il n'était propre à rien de plus, mais aussi rien de moins que le plus grand dandy de son temps et de tous les temps. Il le fut exactement, purement, on dirait presque naïvement si l'on osait. Dans le pêle-mêle social qu'on appelle une société par politesse, presque toujours la destinée est plus grande que les facultés, ou les facultés supérieures à la destinée. Mais pour lui, pour Brummel, chose rare, il y eut un accord entre la nature et le destin, entre le génie et la fortune. Plus spirituel ou plus passionné, c'était Sheridan. Plus grand poète, car il fut poète, c'était Lord Byron. Plus grand seigneur, c'était Lord Yarmouth ou Byron encore. Yarmouth, Byron, Sheridan et tant d'autres de cette époque, fameux dans tous les genres de gloire, qui furent dandys mais quelque chose de plus. Brummel n'eut point ce quelque chose qui était chez les uns de la passion ou du génie. Chez les autres, une haute naissance, une immense fortune. Il gagna à cette indigence, car, réduit à la seule force de ce qui les distingua, il s'éleva au rang d'une chose. Il fut le dandysme même. Chapitre 5. Ceci est presque aussi difficile à décrire qu'à définir. Les esprits qui ne voient les choses que par leur plus petit côté ont imaginé que le dandysme était surtout l'art de la mise, une heureuse et audacieuse dictature en fait de toilette et d'élégance extérieure. Très certainement, c'est cela aussi, mais c'est bien davantage. Le dandysme est toute une manière d'être, et l'on n'est que par le côté matériellement visible. C'est une manière d'être entièrement composée de nuances, comme il arrive toujours dans les sociétés très vieilles et très civilisées, où la comédie devient si rare et où la convenance triomphe à peine de l'ennui. Nulle part, l'antagonisme des convenances et de l'ennui qu'elles engendrent ne s'est fait plus violemment sentir au fond des mœurs qu'en Angleterre, dans la société de la Bible et du droit. Et peut-être est-ce de ce combat à outrance, éternel, comme le duel de la mort et du péché dans Milton, qu'est venue l'originalité profonde de cette société puritaine, qui donne dans la fiction Clarice Harlowe et Lady Byron dans la réalité. Le jour où la victoire sera décidée, il est à penser que la manière d'être qu'on appelle dandysme sera grandement modifiée si elle existe encore, car elle résulte de cet état de lutte sans fin entre la convenance et l'ennui. Ainsi, une des conséquences du dandysme, un de ses principaux caractères, pour mieux parler, son caractère le plus général, est-il de produire toujours de l'imprévu, ce à quoi l'esprit accoutumé au joug des règles ne peut pas s'attendre en bonne logique. L'excentricité, cet autre fruit du terroir anglais, le produit aussi, mais d'une autre manière, d'une façon effrénée, sauvage, aveugle. C'est une révolution individuelle contre l'ordre établi, quelquefois contre la nature. Ici, on touche à la folie. Le dandysme, au contraire, se joue de la règle et pourtant la respecte encore. Il en souffre et s'en venge tout en la subissant. Il s'en réclame quand il y échappe. Il la domine et en est dominé tour à tour. Double et muable caractère. Pour jouer ce jeu, il faut avoir à son service toutes les souplesses qui font la grâce, comme les nuances du prisme forment l'opale en se réunissant. C'était là ce qu'avait Brummel. Il avait la grâce comme le ciel la donne, et comme souvent les compressions sociales la faussent. Mais enfin, il l'avait, et par là, il répondait aux besoins de caprice des sociétés ennuyées et trop durement ployées sous les strictes rigueurs de la convenance. Il était la preuve de cette vérité qu'il faut redire sans cesse aux hommes de la règle. C'est que si l'on coupe les ailes de la fantaisie, elles repoussent plus longues de moitié. Il avait cette familiarité charmante et rare qui touche à tout et ne profane rien. Il vécut de père à compagnon à toutes les puissances, toutes les supériorités de son époque. Et par l'aisance, il s'éleva jusqu'à leur niveau. Où de plus habile se serait perdu, il se sauvait. Son audace était de la justesse. Il pouvait toucher impunément à la hache. On a dit pourtant que cette hache dont il avait tant de fois défié le tranchant le coupa enfin. Qu'il intéressa à sa perte la vanité d'un dandy comme lui, Sa Majesté Georges V. Mais son empire avait été si grand que, s'il avait voulu, il l'eût repris. Chapitre 6. Sa vie tout entière fut une influence, c'est-à-dire ce qui ne peut guère se raconter. On la sent tout le temps qu'elle dure, et quand elle n'est plus, on peut en signaler les résultats. Mais si ces résultats sont de la même nature que l'influence qui les créa, et s'ils n'ont pas plus de durée, l'histoire en devient impossible. On retrouve Herculanum sous la cendre, mais quelques années sur les mœurs d'une société l'ensevelissent mieux que toute la poussière des volcans. Les mémoires, histoire de ces mœurs, ne sont eux-mêmes que des à peu près. On ne retrouvera donc pas, comme il le faudrait, détaillée et nette, sinon vivante, la société anglaise du temps de Brummel. On ne suivra donc jamais, dans son ondoyante étendue et sa portée, l'action de Brummel sur ses contemporains. Le mot de Byron, qui disait « aimer mieux être Brummel que l'empereur Napoléon », paraîtra toujours une affectation ridicule ou une ironie. Le vrai sens d'un pareil mot est perdu. Seulement, au lieu d'insulter l'auteur de Childe Harold, comprenons-le plutôt quand il exprimait son audacieuse préférence. Poète, homme de fantaisie, il était frappé par ce qu'il pouvait en juger de l'empire de Brummel sur la fantaisie d'une société hypocrite, hélas de son hypocrisie. Il y avait là un fait de toute puissance individuelle, qui devait plus convenir à la nature de son capricieux génie que tout autre fait d'omnipotence, quel qu'il fût. Chapitre 7. C'est pourtant, avec des mots semblables à celui de Byron, que l'histoire de Brummel sera écrite. Et, comme par une singulière mystification de la destinée, ce sont de tels mots qui la rendent indéchiffrable. L'admiration ne se justifiant point par des faits qui ont péri tout entier, parce que, de leur nature, ils étaient éphémères, l'autorité du plus grand nom, l'hommage du plus entraînant génie, rendront l'énigme plus obscure. En effet, ce qui reste le moins de toute société, la partie des mœurs qui ne laisse pas de débris, l'arôme trop subtil pour qu'il se conserve, ce sont les manières, les intransmissibles manières, par lesquelles Brummel fut un prince de son temps. Semblable à l'orateur, au grand comédien, au causeur, à tous ces esprits qui parlent au corps par le corps, comme disait Buffon, Brummel n'a qu'un nom, qui brille d'un reflet mystérieux dans tous les mémoires de son époque. On y explique mal la place qu'il y tient, mais on la voit, et ce vaut la peine qu'on y pense. Quant à l'étude présente, détaillée, du portrait qui reste à faire, nul homme jusqu'ici n'en a affronté la lutte douloureuse. Nul penseur n'a cherché à se rendre compte, gravement, sévèrement, de cette influence qui répond à une loi ou à un travers, c'est-à-dire à la déviation d'une loi, à une loi encore. Pour cela, les esprits profonds n'avaient pas assez de finesse, les esprits fins de profondeur. Plusieurs ont essayé, nonobstant. Du vivant même de Brummel, deux plumes célèbres, métaillées trop fin, trempées d'encre de Chine trop musquée, jetèrent sur un papier bleuâtre à tranches d'argent quelques traits faciles à travers lesquels on vit Brummel. C'était charmant de légèreté spirituelle et de pénétration négligente. Ce fut Pelham, ce fut Granby. Ce fut Brummel aussi jusqu'à un certain point, puisqu'on y dogmatisait sur le dandysme. Mais l'intention avait-elle été de le peindre, sinon dans les faits de sa vie, au moins dans les réalités de son être et les possibilités du roman? Pour Pelham, ce n'est pas bien sûr. Pour Granby, on le croirait davantage. Le portrait de Trébec semble avoir été fait sur le vif. On n'invente pas ces nuances étranges, mi-nature et mi-société, et l'on sent que la présence réelle a dû vivifier le coup de pinceau qui les retrace. Mais à cela près du roman de Lister, où Brummel, s'il fallait l'y chercher, se retrouverait bien mieux que dans le Pelham de M. Bulwer, il n'y a point de livre en Angleterre qui montre Brummel comme il fut et qui explique un peu nettement la puissance de son personnage. Récemment, il est vrai, un homme distingué a publié deux volumes dans lesquels il a réuni, avec une patience d'ange curieux, tous les faits connus de la vie de Brummel. Pourquoi faut-il que tant d'efforts et de sollicitudes n'aient abouti qu'à une chronique timorée, sans le dessous de carte de l'histoire? C'est l'explication historique qui manque à Brummel. Il a encore des admirateurs, comme l'épigrammatique Cécile, des curieux comme M. Jess, des ennemis, on ne cite personne. Mais parmi ses contemporains restés debout, parmi les pédants de tous les âges, honnêtes gens qui ont à l'esprit les deux bras gauches que Rivarol donnait à toutes les Anglaises, il en est qui s'indignent de bonne foi contre l'éclat attaché au nom de Brummel. Lourdeau de moralité grave, cette gloire de la frivolité les insulte. Seul l'historien, c'est-à-dire le juge sans enthousiasme et sans haine, n'a point encore paru pour le grand dandy. Et chaque jour qui passe est un empêchement pour qu'il naisse. On a dit pourquoi. S'il ne vient pas, la gloire aura été pour Brummel un miroir de plus. Vivant, elle l'aura réfléchi dans l'étincelante pureté de sa fragile surface. Mais, comme les miroirs, quand il n'y a plus la personne, mort, elle n'en aura rien gardé. Chapitre 8. Le dandysme n'étant pas l'invention d'un homme, mais la conséquence d'un certain état de société qui existait avant Brummel, il serait peut-être convenable d'en constater la présence dans l'histoire des mœurs anglaises et d'en préciser l'origine. Tout porte à penser que cette origine est française. La grâce est entrée en Angleterre à la restauration de Charles II, sur le bras de la corruption, qui se disait sa sœur alors et qui quelquefois la fait croire. Elle vint attaquer avec la moquerie le sérieux terrible et imperturbable des puritains de Cromwell. Les mœurs, toujours profondes dans la Grande-Bretagne, quelle que soit leur tendance, bonne ou mauvaise, exagéraient la sévérité. Il fallait bien, pour respirer, se soustraire à leur empire, déboucler ce lourd ceinturon, et les courtisans de Charles II, qui avaient bu dans les verres à champagne de France un lotus qui faisait oublier les sombres et religieuses habitudes de la patrie, tracèrent la tangente par laquelle on put échapper. Beaucoup par là se précipitèrent. Les disciples mêmes eurent bientôt dépassé leurs anciens maîtres. Et, comme l'a dit un écrivain avec une piquante exactitude, leur bonne volonté d'être corrompus était si bonne que les Rochester et les Shaftesbury enjambèrent d'un siècle sur les mœurs françaises de leur temps et sautèrent jusqu'à la Régence. On ne parle ni de Buckingham, ni d'Hamilton, ni de Charles II lui-même, ni de tous ceux chez qui les souvenirs de l'exil furent plus puissants que les impressions du retour. On a plutôt en vue ceux-là qui, restés anglais, furent atteints de plus loin par le souffle étranger et qui ouvrirent le règne des beaux comme Sir George Evatt, Wilson, tué, dit-on par là, dans un duel, et Fielding, dont la beauté arrêta le regard sceptique de l'insouciant Charles II, et qui, après avoir épousé la fameuse duchesse de Cleveland, renouvela les scènes de Lauzun avec la grande mademoiselle. Ainsi qu'on le voit, le nom même qu'ils portèrent accuse l'influence française. Leur grâce aussi était comme leur nom. Elle n'était pas assez indigène, assez mêlée à cette originalité du peuple au milieu duquel naquit Shakespeare, à cette force intime qui devrait plus tard la pénétrer. Qu'on ne s'y méprenne pas. Les beaux ne sont pas les dandys, ils les précèdent. Déjà, le dandysme, il est vrai, s'agite sous ses surfaces, mais il ne paraît point encore. C'est du fond de la société anglaise qu'il doit sortir. Fielding meurt en 1712. Après lui, le colonel Edgeworth, vanté par Steele, un beau aussi dans sa jeunesse, continue la chaîne d'or ouvragée des beaux qui se ferme à Nash pour se rouvrir à Brummel, mais avec le dandysme en plus. Car, s'il est né plus tôt, c'est dans l'intervalle qui sépare Fielding de Nash que le dandysme a pris son développement et sa forme. Pour son nom, dont la racine est peut-être française encore, il ne l'eut que plus tard. On ne le trouve pas dans Johnson. Mais quant à la chose qu'il signifie, elle existait. Et comme cela devait être, dans les personnalités les plus hautes. En effet, la valeur des hommes étant toujours en vertu du nombre des facultés qu'ils ont, et le dandysme représentant justement celles qui n'avaient pas leur place dans les mœurs, tout homme supérieur dut se teindre et se teignit, plus ou moins, de dandysme. Ainsi, Marlborough, Chesterfield, Bolingbroke surtout, car Chesterfield avait fait dans ses lettres le traité du gentleman, comme Machiavel a fait le traité du prince, moins en inventant la règle qu'en racontant la coutume. Chesterfield est bien attaché encore à l'opinion admise, et Marlborough, avec sa beauté de femme orgueilleuse, est plus cupide que vaniteux. Bolingbroke seul est avancé, complet, un vrai dandy des derniers temps. Il en a la hardiesse dans la conduite, l'impertinence somptueuse, la préoccupation de l'effet extérieur et la vanité incessamment présente. On se rappelle qu'il fut jaloux de Harley, assassiné par Guiscard, et qu'il disait, pour se consoler, que l'assassin avait sans doute pris un ministre pour un autre. Rompant avec les pruderies des salons de Londres, ne l'avait-on pas vu, chose horrible à penser, afficher l'amour le plus naturel pour une marchande d'oranges, qui peut-être n'était pas jolie, et qui se tenait sous les galeries du Parlement. Enfin, il inventa la devise même du dandysme, le nil mirari de ces hommes, Dieu aux petits pieds, qui veulent toujours produire la surprise en gardant l'impassibilité. Plus qu'à personne d'ailleurs, le dandysme seyait à Bolingbroke. N'était-ce pas de la libre pensée en fait de manière et de convenance du monde, de même que la philosophie en était en matière de morale et de religion? Comme les philosophes qui dressaient devant la loi une obligation supérieure, les dandys, de leur autorité privée, posent une règle au-dessus de celle qui régit les cercles les plus aristocratiques, les plus attachés à la tradition. Et par la plaisanterie qui est un acide, et par la grâce qui est un fondant, ils parviennent à faire admettre cette règle mobile, qui n'est, en fin de compte, que l'audace de leur propre personnalité. Un tel résultat est curieux et tient à la nature des choses. Les sociétés ont beau se tenir fermes, les aristocraties se fermer à tout ce qui n'est pas de l'opinion reçue, le caprice se soulève un jour et pousse à travers ces classements qui paraissaient impénétrables, mais qui étaient minés par l'ennui. C'est ainsi que, d'une part, la frivolité chez un peuple d'une tenue rigide et d'un militarisme grossier, de l'autre, l'imagination réclamant son droit à la face d'une loi morale trop étroite pour être vraie, produisirent un genre de traduction, une science de manière et d'attitude impossible ailleurs, dont Brummel fut l'expression achevée et qu'on n'égalera jamais plus. On verra pourquoi. Chapitre 9. George Bryan Brummel est né à Westminster de William Brummel, Esquire, secrétaire privé de Sir Lord North, dandy aussi à certaines heures, qui dormait de mépris sur son banc de ministre aux plus virulentes attaques des orateurs de l'opposition. North fit la fortune de Brummel, homme d'ordre et de capacité active. Les pamphlétaires qui crient à la corruption en espérant qu'on les corrompra ont appelé Lord North le dieu des appointements. Mais toujours est-il vrai de dire qu'en payant Brummel, il récompensait des services. Après la chute du ministère de son bienfaiteur, M. Brummel devint haut-shérif dans le Berkshire. Il habita près de Domington Castle, lieu célèbre pour avoir été la résidence de Chaucer. Et là, il vécut avec cette hospitalité opulente dont les Anglais seuls dans le monde ont le sentiment et la puissance. Il avait conservé de grandes relations. Entre autres célébrités contemporaines, il recevait beaucoup Fox et Sheridan. Une des premières impressions du futur dandy fut donc de sentir le souffle de ces hommes forts et charmants sur sa tête. Ils furent comme les fées qui le douèrent, mais ils ne lui donnèrent que la moitié de leur force, les plus éphémères de leurs facultés. Nul doute qu'en voyant, qu'en entendant ces esprits, la gloire de la pensée humaine qui menait la causerie comme le discours politique et dont la plaisanterie valait l'éloquence, le jeune Brummel n'ait développé les facultés qui étaient en lui et qui l'ont rendu plus tard, pour se servir du mot employé par les Anglais, un des premiers conversationnistes de l'Angleterre. Quand son père mourut, il avait 16 ans, 1794. On l'avait, en 1790, envoyé à Eton, et déjà il s'était distingué, en dehors du cercle des études, par ce qui le caractérisa si éminemment plus tard. Le soin de sa mise et les langueurs froides de ses manières lui firent donner par ses condisciples un nom fort en vogue alors, car le nom de dandy n'était pas encore à la mode. Et les despotes de l'élégance s'appelaient Bucks ou Macaronis. On le surnomma Buck Brummel. Nul du témoignage de ses contemporains n'exerça plus d'influence que lui sur ses compagnons à Eton, excepté peut-être George Canning. Mais l'influence de Canning était la conséquence de son ardeur de tête et de cœur, tandis que celle de Brummel venait de facultés moins enivrantes. Il justifiait le mot de Machiavel « Le monde appartient aux esprits froids ». D'Eton, il alla à Oxford, où il eut le genre de succès auquel il était destiné. Il y plut par les côtés les plus extérieurs de son esprit, sa supériorité à lui ne se marquant pas dans les laborieuses recherches de la pensée, mais dans les relations de la vie. En sortant d'Oxford, 3 mois après la mort de son père, il entra comme cornette dans le 10e de Hussards, commandé par le prince de Galles. On s'est beaucoup efforcé pour expliquer le goût si vif que Brummel inspira soudainement à ce prince. On a raconté des anecdotes qui ne méritent pas qu'on les cite. Qu'a-t-on besoin de ces commérages ? Il y a mieux. En effet, Brummel donné, il était impossible qu'il n'attirât pas l'attention et les sympathies de l'homme qui, disait-on, était plus fier et plus heureux de la distinction de ses manières que de l'élévation de son rang. On sait d'ailleurs l'éclat de cette jeunesse qu'il essaya d'éterniser. À cette époque, le prince de Galles avait 32 ans. Beau de la beauté lymphatique et figée de la maison de Hanovre, mais cherchant à l'animer par la parure, à la vivifier par le rayon de feu du diamant, scrofuleux d'âme comme de corps, mais n'ayant pas du moins dégradé la grâce en lui, cette dernière vertu des courtisans, celui qui fut George IV reconnut en Brummel une portion de lui-même, la partie restée saine et lumineuse. Et voilà le secret de la faveur qu'il lui montra. Ce fut simple comme une conquête de femme. N'y a-t-il pas des amitiés qui prennent leur source dans les choses du corps, dans la grâce extérieure, comme des amours qui viennent de l'âme, du charme immatériel et secret? Telle fut l'amitié du prince de Galles pour le jeune cornette de Hussard, sentiment qui était de la sensation encore. Le seul peut-être qui put germer au fond de cette âme obèse dans laquelle le corps remontait. Ainsi, l'inconstante faveur que Lord Barrymore, Hunger et tant d'autres effeuillèrent à leur tour tomba sur la tête de Brummel, avec tout l'imprévu du caprice et la furie de l'engouement. Sa présentation eut lieu sur la fameuse terrasse de Windsor, en présence de la fashion la plus exigeante. Il y déploya tout ce que le prince de Galles devait estimer le plus parmi les choses humaines. Une grande jeunesse relevée par l'aplomb d'un homme qui aurait su la vie et qui pouvait la dominer. Le plus fin et hardi mélange d'impertinence et de respect. Enfin, le génie de la mise, protégé par une répartie toujours spirituelle. Certes, il y avait dans l'enlèvement d'un tel succès autre chose que de l'extravagance dite de côté. Le mot « extravagance » est employé par les moralistes déroutés comme le mot « nerf » par les médecins. À dater de ce moment, il se trouva classé très haut dans l'opinion. On le vit de préférence au plus noble nom de l'Angleterre, lui, le fils d'un simple esquire, du secrétaire privé dont le grand-père avait été marchand remplir les fonctions de chevalier d'honneur de l'héritier présomptif lors de son mariage avec Caroline de Brunswick. Tant de distinctions groupa immédiatement autour de lui, sur le pied de la familiarité la plus flatteuse, l'aristocratie des salons. Lord Somerset, Lord Petersham, Charles Kerr, Charles et Robert Manners. Jusque-là, rien d'étonnant, ils n'étaient qu'heureux. Il était né, comme disent les Anglais, avec une cuillère d'argent dans la bouche. Il avait pour lui ce quelque chose d'incompréhensible que nous appelons notre étoile, et qui décide de la vie, sans raison ni justice. Mais ce qui surprend davantage, ce qui signifie son bonheur, c'est qu'il le fixa. Enfant gâté de la fortune, il le devint de la société. Byron parle quelque part d'un portrait de Napoléon dans son manteau impérial, et il ajoute « Il semblait qu'il y fût éclos ». On en put dire autant de Brummel et de ce frac célèbre qu'il inventa. Il commença son règne sans trouble, sans hésitation, avec une confiance qui est une conscience. Tout concourut à son étrange pouvoir, et personne ne s'y opposa. Là où les relations valent plus que le mérite, et où les hommes, pour que chacun d'eux puisse seulement exister, doivent se tenir comme des crustacés, Brummel avait pour lui, encore plus comme admirateur que comme rivaux, les ducs d'York et de Cambridge, les comtes de Westmoreland et de Chatham, le frère de William Pitt, le duc de Rutland, lord de la mer, politiquement et socialement ce qu'il y avait de plus élevé. Les femmes qui sont, comme les prêtres, toujours du côté de la force, sonnèrent de leurs lèvres vermeilles les fanfares de leurs admirations. Elles furent les trompettes de sa gloire, mais elles restèrent trompettes, car c'est ici l'originalité de Brummel. C'est ici qu'il diffère essentiellement de Richelieu et de presque tous les hommes organisés pour séduire. Il n'était pas ce que le monde appelle libertin. Richelieu, lui, imita trop ses conquérants tartares qui se faisaient un lit avec des femmes entrelacées. Brummel n'eut point de ses butins et de ses trophées de victoire. Sa vanité ne trempait pas dans un sang brûlant. Les sirènes, filles de la mer, à la voix irrésistible, avaient les flancs couverts d'écailles impénétrables, d'autant plus charmantes, hélas, qu'elles étaient plus dangereuses. Et sa vanité n'y perdit pas, au contraire. Elle ne se rencontrait jamais en collision avec une autre passion qui la heurtait, qui lui faisait équilibre. Elle régnait seule, elle était plus forte. Aimer, même dans le sens le moins élevé de ce mot, désirer, c'est toujours dépendre, c'est être esclave de son désir. Les bras le plus tendrement fermés sur vous sont encore une chaîne. Et si l'on est Richelieu, et serait-on Don Juan lui-même, quand on les brise, ces bras si tendres, de la chaîne qu'on porte, on ne brise jamais qu'un anneau. Voilà l'esclavage auquel Brummel échappa. Ses triomphes eurent l'insolence du désintéressement. Il n'avait jamais le vertige des têtes qu'il tournait. Dans un pays comme l'Angleterre, où l'orgueil et la lâcheté réunis font de la pruderie pour de la pudeur, il fut piquant de voir un homme, et un homme si jeune, qui résumait en lui toutes les séductions de convention et toutes les séductions naturelles, punir les femmes de leurs prétentions sans bonne foi, et s'arrêter avec elles à la limite de la galanterie qu'elles n'ont pas mise là pour qu'on la respecte. C'était pourtant ainsi qu'agissait Brummel, sans aucun calcul et sans le moindre effort. Pour qui connaît les femmes, cela doublait sa puissance. Parmi ces ladies altières, il blessait l'orgueil romanesque et faisait rêver l'orgueil corrompu. Roi de la mode, il n'eut donc point de maîtresse en titre. Plus habilement dandy que le prince de Galles, il ne se donna point de Madame Fitzherbert. Il fut un sultan sans mouchoir, nulle illusion du cœur, nul soulèvement des sens n'influa pour les énerver ou les suspendre sur les arrêts qu'ils portaient. Aussi était-il souverain. Que ce fût un éloge ou un blâme, un mot de George Brian Brummel était tout alors. Il était l'autocrate de l'opinion. En Italie, si, par hypothèse, un pareil homme, un pareil pouvoir était possible, quelle femme bien éprise y penserait ? Mais en Angleterre, la plus follement amoureuse, en posant une fleur ou en essayant une parure, songeait bien plus au jugement de Brummel qu'au plaisir de son amant. Une duchesse, et l'on sait ce qu'un titre permet de hauteur dans les salons de Londres, disait en plein bal à sa fille, au risque d'être entendue, de veiller avec soin sur son attitude, ses gestes, ses réponses, si par hasard M. Brummel daignait lui parler. Car, à cette première phase de sa vie, il se mêlait encore à la foule des danseurs, dans ces bals où les mains les plus belles restaient oisives en attendant la sienne. Plus tard, enivré de la position exceptionnelle qu'il s'était faite, il renonça à ce rôle de danseur trop vulgaire pour lui. Il restait seulement quelques minutes à l'entrée d'un bal. Il le parcourait d'un regard, le jugeait d'un mot et disparaissait, appliquant ainsi le fameux principe du dandysme. Dans le monde, tout le temps que vous n'avez pas produit d'effet, restez. Si l'effet est produit, allez-vous-en. Il connaissait son foudroyant prestige. Pour lui, l'effet n'était plus une question de temps. Avec cet éclat dans sa vie, cette souveraineté sur l'opinion, cette grande jeunesse qui augmente la gloire, et cet aspect charmant et cruel que les femmes maudissent et adorent, pas de doute qu'il n'ait inspiré bien des passions en sens contraire, des amours profondes, d'inexorables haines, mais rien de cela n'a transpiré. Le Kant a étouffé le cri des âmes, s'il en fut qui ait osé crier. En Angleterre, la convenance qui châtre les cœurs s'oppose un peu à l'existence des mademoiselles de l'Espinasse qui voudraient naître. Et quant à une Caroline Lamb, Brummel n'en eut point, par la raison que les femmes sont plus sensibles à la trahison qu'à l'indifférence. Une seule, à notre connaissance, a laissé sur Brummel de ces mots qui cachent la passion et qui la révèlent. C'est la courtisane Henriette Wilson. Chose naturelle, elle était jalouse non du cœur de Brummel, mais de sa gloire. Les qualités d'où le dandy tirait sa puissance était de celles qui eussent fait la fortune de la courtisane. Et d'ailleurs, sans être des Henriette Wilson, les femmes s'entendent si bien aux réserves en faveur de leur sexe. Elles ont le génie des mathématiques, comme les hommes, et tous les génies. Et elles ne passent pas à Sheridan, malgré le sien, l'impertinence d'avoir fait sculpter sa main comme la plus belle de l'Angleterre.